je pense que c'est quelque chose qui vient maintenant ben, du fait que peut-être qu'on fait que les petites filles au plus jeune âge ne rêvent pas encore d'être pilote parce que c'est pas l'image qu'on a d'un métier qui est un métier de femme. On a l'image d'un métier assez masculin. Mais après, il n'y a aucune barrière une fois qu'on est rentré dans la formation et qu'on est lancé. Donc finalement, je pense que ça vient plutôt de là. Ça vient plutôt de réussir à donner envie aux jeunes femmes de faire ce métier et de se rendre compte que c'est possible.
Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Dans ce nouvel épisode de notre série sur l'opération Barkhane, nous partons à la rencontre de la capitaine Lauriane, pilote de Mirage 2000D sur la base aérienne de Niamey. Elle nous parlera de son parcours au sein de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que de ses différentes missions à bord de son avion de chasse. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au Sahel, directement en cliquant sur l'onglet Premium sur le site défense-zone.com. Et n'oubliez pas que vous retrouverez notre dossier complet sur l'opération Barkhane, ainsi que des images inédites dans le numéro 3 de notre magazine papier Défense Zone. Nous souhaitons une bonne écoute.
Donc nous sommes sur la base aérienne de Niamey avec la capitaine Lauriane. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites ?
Oui, bah moi je suis la capitaine Lauriane, comme vous l'avez dit, ou trop, parce qu'on fonctionne pas mal par surnom dans mon unité, enfin, de manière générale. Je suis pilote de chasse, arrivée donc à Niamey il y a à peine une semaine pour ma première OPEX.
D'accord. Votre mission ici consiste en quoi ?
La mission du DET Chasse, c'est de participer à l'opération Barkhane. Donc, nous, on fait de l'appui aérien principalement aux troupes qui, elles, sont au sol, qui demandent notre aide dans certaines situations.
D'accord. Ça correspond à quoi concrètement sur, vous allez intervenir pour appuyer depuis les airs, c'est ça ou...
Exactement. Donc les troupes au sol, elles ont leur propre mission. Il arrive qu'elles soient prises à partie. Ou tout simplement qu'elles aient besoin du vecteur aérien pour pouvoir voir en avant ou alors scanner des points particuliers. Donc nous, on est tasqué sur ce genre de mission, donc on est en l'air et on est à leur disposition finalement. Ils nous donnent des choses à faire et donc nous, on est là pour les appuyer.
D'accord. Donc vous disiez que c'est votre première mission, premier déploiement. Comment vous le vivez jusqu'à maintenant ?
Bien, plutôt bien, c'est que je l'ai assez bien préparé, je pense. Non, ça se passe bien, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais comme je le disais, j'étais bien préparée. Notre entraînement en France, il est fait pour ça et il porte ses fruits, puisqu'on n'est pas trop perdu.
Comment ça se passe depuis le recrutement jusqu'à une opération comme ça sur Barkhane? C'est quoi les étapes?
Je vais dire ça dépend, c'est un peu une réponse de Normand, c'est parce qu'il y a deux manières de devenir pilote dans l'armée de l'air. Alors moi, mon expérience, c'est que je suis ce qu'on appelle direct, j'ai fait l'école de l'air, donc j'ai fait une prépa. Après, je suis rentrée à l'école de l'air, donc c'est 3 ans, c'est un équivalent école d'ingénieur. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé ma formation après de pilote à proprement parler. Pour vous donner une idée, moi je suis sortie de l'école de l'air en 2015. Et donc là, voilà, je mets les pieds sur le théâtre pour la première fois en 2021. Donc c'est 6 ans de formation, c'est assez long, parce que c'est forcément assez complexe et technique.
Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier ?
Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a une quinzaine, je pense, de femmes pilotes de chasse à l'heure actuelle. Si on prend sur la base de Nancy, navigatrice et pilote... on est 5 en ce moment, sur la base de Nancy.
Comment vous l'expliquez, ça ?
Je pense que c'est quelque chose qui vient maintenant du fait que peut-être qu'on fait que les petites filles au plus jeune âge ne rêvent pas encore d'être pilotes parce que c'est pas l'image qu'on a d'un métier qui est un métier de femme. On a l'image d'un métier assez masculin. Mais après, il n'y a aucune barrière une fois qu'on est rentré dans la formation et qu'on est lancé. Donc finalement, je pense que ça vient plutôt de là. Ça vient plutôt de réussir à donner envie aux jeunes femmes de faire ce métier et de se rendre compte que c'est possible.
Et pour vous, c'était un rêve de petite fille ?
Ouais. Ouais, j'ai toujours voulu faire ça.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Ça m'a toujours fait rêver les avions. Après, j'avais un papa militaire, mais dans la marine nationale. Donc certainement le côté militaire c'est venu de là puisque j'ai jamais voulu vraiment faire pilote de ligne ou autre, je voulais vraiment faire ce métier là. Je sais pas, ça s'explique pas trop.
D'accord. Avant d'être pilote, du coup, vous êtes passé par le poste de navigateur ou pas du tout ?
Non, pas du tout. C'est vraiment deux formations à part entière. Le choix, il se fait à la sortie d'école, finalement. On décide si on veut rentrer dans la filière plutôt pilote ou plutôt navigateur, sachant que ça se regroupe sous un même nom qu'on appelle PN chez nous, pour personnel navigant. Et c'est deux formations particulières, alors qui se croisent, hein, mais qui ont leur particularité propre.
D'accord. Ici, à Niamey, vous volez sur des Mirage 2000. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet avion et de ses caractéristiques ?
Oui, on vole sur Mirage 2000D même, pour être plus précis. Il y a aussi des Mirage 2000C qui sont revenus depuis peu sur l'opération Barkhane. Les caractéristiques du Mirage 2000D, donc c'est un chasseur monoréacteur. Pour avoir un peu des grandeurs d'idées, on emporte 6 tonnes de fuel, pour faire une petite comparaison avec une voiture, se rendre compte de ce que ça donne. On emporte avec nous un pod de désignation laser, donc qui nous permet de guider des bombes laser, mais aussi en fait de regarder au sol plus particulièrement. Et on peut emporter donc deux bombes guidées laser et GPS. C'est notre configuration standard, on va dire, sur le théâtre. Et puis en termes de capacité de vitesse, hein, le Mirage 2000D, quand là on est en opération, notre vitesse moyenne, ça va être autour des 400 nœuds, on va dire, en transit. Et si on parle en km/h, on fait à peu près x2, donc dans les 800 km/h.
D'accord. Il y a certaines exigences physiques pour faire ce métier ?
Je dirais qu'il faut être en bonne forme physique, mais on n'est pas non plus des athlètes. Il faut juste avoir une bonne hygiène de vie et puis une bonne forme physique. Après, en fait, souvent, je me dis que le métier de pilote de chasse, c'est quelque chose où il faut être assez complet. Il ne faut pas être hyper bon dans quelque part. Il faut être un peu complet partout pour que ça fonctionne bien. Donc non, en termes de physique, il n'y a pas vraiment de choses particulières. La résistance aux facteurs de charge, par exemple, c'est quelque chose qui finalement se travaille, qui vient un peu avec le temps. Voilà, c'est pas...
D'accord. Et au niveau mental, je suppose que ça va être assez exigeant, le fait de partir comme ça sur des missions assez dangereuses au final.
Oui, mais quand on se dit que voilà, la formation, comme je vous disais, dure 6 ans, c'est vraiment en fait avoir l'endurance sur la durée et puis avoir l'envie de le faire aussi. Souvent, c'est une passion pour nous, donc oui, au niveau mental, c'est surtout ça. Difficile, je sais pas, parce que moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis rentrée dans ce parcours-là. Donc là, on en voit l'aboutissement, c'est pour servir finalement.
Vous pouvez compter sur le navigateur, sur les mécaniciens, c'est un travail d'équipe, je suppose.
Oui, tout à fait. La particularité du biplace, c'est que oui, on travaille en équipage, donc c'est quelque chose qui s'apprend et on a vraiment chacun un rôle à jouer dans l'avion. C'est-à-dire que le navigateur, lui, il est là pour voir le long terme souvent, donc que ce soit en termes de pétrole, de timing, là où le pilote, lui, il est plus approprié par le pilotage de l'avion à court terme. Et donc le navigateur, lui, il a plus de recul. Et puis ensuite, le navigateur, lui, ben, par exemple, je vous parlais du pote de désignation laser, c'est son travail, c'est lui qui va guider l'armement. Donc on a vraiment des tâches particulières au sein de l'avion qui se partagent, enfin qui font que ça fonctionne bien.
D'accord. Là, vous avez déjà fait des premiers vols ici ?
Oui, j'ai fait mon troisième vol ce matin. Ouais.
Ça s'est passé comment ?
Ça s'est bien passé. C'était un long vol, on a fait 5 heures, on a fait 4 ravitaillements. Donc là, je vous cache pas que je suis sortie d'une petite sieste après un décollage matinal à 6 heures local. Donc non, c'était... Alors aussi, on parle d'endurance. Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est tenir dans la durée en vol, c'est pareil. C'est un vol intéressant.
5 heures de vol, c'est le maximum ou vous pouvez voler plus longtemps ?
Non, on peut voler plus longtemps. En fait, la seule limitation qu'on va avoir en termes de technique, c'est l'appareil qui est limité à 10 heures de vol. C'est des limitations techniques qui sont liées à l'huile finalement et à la consommation du moteur en huile. C'est très rare de faire d'avoir des vols qui viennent toucher les 10 heures, mais c'est déjà arrivé dans les 8h30, 9h, je pense que c'est un petit peu le record.
D'accord. Et là, vous êtes en mission pour 2 mois, c'est ça?
Tout à fait.
À l'inverse de certains militaires sur des opérations comme Barkhane, où on vient pour 4 mois.
Ouais.
Comment ça s'explique?
Je pense que c'est la spécificité aéro. Il faut se dire quand même qu'il y a une certaine fatigue qui est induite par le vol. Je pense que ça vient un peu de là. Dans nos textes, on a des limitations aussi en horaire. On est limité à 30 heures de vol sur 30 jours. Ce qu'on dépasse pendant les 2 mois, on a des visites médicales pour voir qu'on n'est pas trop fatigué, etc. Je pense que cette spécificité, elle vient de là. C'est la sécurité des vols avant tout. Ce qui fait qu'on ne fait pas des missions de 4 mois, à mon sens, ça doit venir de là.
D'accord. Ça doit être plus facile à gérer du coup les départs en opération si on part que 2 mois entre guillemets ou...
Oui, pour en avoir... J'ai des amis qui eux font des OPEX de 4 mois, c'est vrai que c'est peut-être... ça commence à être autre chose à gérer en effet, ouais. 2 mois, ça reste tout à fait, je trouve, acceptable entre guillemets sur le point de vue personnel, ça va, c'est pas...
Dans le dernier numéro de Défense Zone, notre magazine, on a donné la parole à un pilote de Rafale qui expliquait que pour lui, c'était très important d'avoir une base arrière aussi, à travers sa famille, ses enfants. Vous, comment ça se passe à ce niveau?
Moi, à ce niveau, j'ai la chance d'être en couple avec un pilote aussi. Donc c'est vrai qu'on se comprend bien à ce niveau-là. Le revers de la médaille, c'est que lui va partir en OPEX pas longtemps après moi. On va se croiser un petit peu. Mais au moins, c'est vrai qu'on se comprend tout à fait. Et puis, il y a moins d'inquiétude aussi, c'est vrai, puisqu'il sait quelles sont les missions et que ça, il sait la manière dont on peut être occupé après le vol, à débriefer, etc., ne pas envoyer de message pour dire tout va bien. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis plutôt sereine.
Quand vous êtes en vol, c'est quoi les principaux risques qui pourraient amener à être peut-être éjecté ou...
Si on regarde sur les donc dans l'historique on va dire de l'opération, l'éjection qu'on a eue c'était une panne mécanique, donc ça pourrait être la panne mécanique grave. La particularité du théâtre c'est que finalement par rapport à la métropole on a moins de terrains qui nous permettent de nous dérouter. On a des allonges beaucoup plus grandes avec donc des distances plus élevées entre chaque terrain, ce qui fait que ça peut arriver par moment sur certaines pannes très critiques, comme ça a pu être le cas pour l'éjection qui avait eu lieu, qu'on ne puisse pas rejoindre un terrain de déroutement. C'est sûrement le plus gros risque à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas vraiment de menace sol-air avérée, pas de menace air-air non plus. Donc c'est la panne mécanique grave.
Question qui peut sembler un peu bête, mais à quoi on pense quand on décolle avec un avion comme ça?
Et on pense à vérifier ses paramètres. C'est une phase qui est assez prenante. On n'a pas trop le temps de penser, tout va assez vite. On a beaucoup de vérifications à faire pour voir que tout est nominal dans l'avion. Donc finalement, au moment où on rentre le train, on est libéré un petit peu de tout ça. Mais on n'a pas trop le temps de penser à autre chose.
Je suppose que l'atterrissage doit être un peu le même.
Oui, tout à fait. C'est les phases critiques du vol, finalement. C'est quand on revient se poser et quand on décolle. C'est des moments où tout se passe très vite et s'il y a le moindre souci, il va falloir réagir aussi assez rapidement. On n'a pas trop le temps de réfléchir.
Vous avez volé aussi sur Rafale?
Non, je n'ai jamais volé sur Rafale.
Et vous pourriez?
Je pourrais, ma carrière pourrait m'amener sur cet avion. Après, c'est une question aussi de choix, d'envie. Voilà.
D'accord. Vous préférez voler sur Mirage?
Moi, c'est ce que j'avais demandé, oui. Je voulais faire du Mirage 2000D, tout à fait. Ouais.
Pourquoi?
J'avais vraiment envie de faire un avion spécialisé dans une mission, finalement. L'appui aérien, l'appui aux troupes au sol, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Et j'avais aussi envie de faire du travail en biplace. Donc c'était un parfait compromis.
D'accord. Dans le civil, vous volez aussi?
Non, j'ai volé dans le civil un petit peu pour emmener ma famille voler. Mais finalement, c'est... on ne retrouve pas les mêmes sensations que sur 2000, forcément.
Ça va moins vite, quoi.
C'est sûr.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de s'engager dans cette voie, et plus particulièrement peut-être une femme qui se dit potentiellement que c'est pas fait pour elle, parce que effectivement c'est un milieu peut-être de beaucoup d'hommes.
De manière générale, du coup, à quelqu'un qui voudrait s'engager dans cette voie, peu importe son sexe, je dirais qu'il faut persévérer, que c'est une formation qui est longue, mais pas inaccessible. Que quand on en a l'envie et qu'on a la niaque, on peut y arriver. Il suffit vraiment de s'accrocher et de travailler. Il y a quand même beaucoup de travail. Il ne faut pas se voiler la face, c'est sûr, il y aura du travail, mais ça vaut le coup. Et à une femme, je dirais en particulier qu'il ne faut pas se mettre de barrière à ce niveau-là. Moi, je n'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de mon statut de femme dans l'armée. L'armée de l'air, c'est une armée qui est féminisée, qui est jeune, qui est dynamique. Les esprits ont beaucoup évolué, je pense, depuis première femme pilote de chasse. Donc, il n'y a vraiment aucune barrière à se mettre à ce niveau-là. Aucune peur à avoir.
Dans l'avenir, c'est quoi vos objectifs ? Après avoir été pilote, vous aimeriez faire quoi ? Chef de détachement, par exemple ?
Bah, pour l'instant, en fait, déjà, j'ai encore beaucoup d'étapes dans ma vie de jeune pilote. Puisque là, je viens d'avoir donc ma qualification de pilote opérationnel qui m'a permis donc d'être déployée. Mais derrière, j'ai encore d'autres qualifications à passer, sous-chef de patrouille, puis chef de patrouille. Donc sous-chef de patrouille pour pouvoir emmener un autre avion en vol avec moi, chef de patrouille pour pouvoir emmener jusqu'à 3 autres avions avec moi en vol. Donc il y a encore beaucoup d'échelons. Donc pour l'instant, je regarde dans cette direction. Après, le fait que je sois directe, comme je vous disais, m'amènera à prendre des postes de responsabilité. Peut-être à moins voler dans une deuxième partie de carrière. Pour l'instant, je suis plutôt concentrée sur la première, et après, on verra ce qui m'attend, mais ce sera aussi bien, je pense.
D'accord. Ces qualifs, elles sont compliquées à avoir ?
C'est toujours des phases assez difficiles, oui. On va avoir des entraînements sur un ou plusieurs mois. C'est assez intense. Mais encore une fois, quand on entre en phase de qualification, on s'est entraîné avant. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est toujours des moments intenses, on va dire.
Il y a une particularité à voler dans un désert comme celui du Sahel par rapport à quand vous avez volé en France, par exemple?
Quand on est dans l'avion, ça ne va pas faire de grande différence, c'est plutôt dans la manière dont on se prépare. On parlait de panne, etc. Donc dans la manière dont on se prépare à l'éjection, dont on envisage après la survie une fois au sol, ça va être forcément très différent.
Vous êtes formé à ça ? Il y a une formation spécifique ?
Oui, bien sûr. On a plusieurs stages de survie. Donc on a des stages de survie en milieu tempéré, en milieu temps froid. Et puis après, on a aussi des stages de temps chaud et puis aussi et surtout des stages de survie au combat. Donc dans un milieu hostile.
Ça, vous faites ça où, au SNEC ?
On fait ça à Cazaux.
Cazaux, d'accord. Ouais. Ok. En dehors du fait qu'il faut beaucoup travailler, il faut oser, c'est quoi les qualités, les compétences peut-être qu'il faut avoir pour bien faire ce métier ?
Pour bien faire ce métier au quotidien ou pour s'y lancer, je dirais pour les jeunes, c'est important de travailler l'anglais, par exemple, quand on veut se lancer dans cette formation, ça va beaucoup compter et être assez important. Donc, travailler son anglais. Et puis après, les compétences au quotidien. Comme je vous disais, il faut être un petit peu assez bon partout. C'est beaucoup de travail, de la persévérance, donc bonne hygiène de vie, un peu de sport forcément. Bon niveau d'anglais, ça aide aussi énormément. Après, c'est des choses qu'on découvre sur soi-même aussi au fur et à mesure de la formation, finalement. Si on a les qualités ou pas. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours anticiper.
Ouais. Vous avez beaucoup appris sur vous pendant la formation, justement ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. On apprend quand on fait des vols complètement nuls, on apprend sur soi. Quand on est fatigué et qu'on vole énormément, on apprend sur soi. Quand on vole pas beaucoup aussi et qu'il faut garder la motivation, on apprend sur soi. C'est une formation et on apprend toujours. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on se remet toujours en question. On n'est jamais figé à se dire c'est bon là maintenant, je suis posé, je sais tout faire. Ça arrive pas quand on est pilote ou navigateur de chasse. Ça n'arrive pas.
Petite question concernant l'image qu'on a du pilote de chasse avec des films comme Top Gun, ce genre de choses. Est-ce qu'on est loin ou pas si loin que ça de la vérité?
Ouais, Top Gun, on est quand même un petit peu loin de la vérité parce que c'est quand même c'est les États-Unis déjà. C'est l'aéronautique aussi, l'aéronaval, donc c'est un petit peu différent. Non, je sais pas comment vous voyez le pilote de chasse pour que je vous dise si on est près ou loin de la vérité.
Peut-être sur le côté un peu tir au flanc ou un peu rebelle ou...
Ah oui, à ce niveau-là, non, ouais, là on est assez loin quand même. ouais. Rebelle, non pas trop, hein. on est militaire, donc on obéit aux ordres. C'est vrai que ça s'est un petit peu romancé dans Top Gun. Après, les aviateurs, on a un petit peu cette image-là, hein, quand on regarde depuis les fosses aériennes françaises libres, le calot de travers, etc., il y a un petit peu ce spirit, mais, mais c'est pas comme dans Top Gun non plus.
Tant mieux d'ailleurs.
Oui, on n'est pas des têtes brûlées, ça c'est sûr.
Merci pour cet échange et ce partage.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au Sahel directement dans votre espace premium sur defense-zone.com en cliquant sur l'onglet Premium. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast.